Aujourd'hui, plein feu sur une mère de famille. Une mère de famille comme beaucoup d'autres, jeune, belle, équilibrée, souriante, très simple du reste, qui n'a que 26 ans. Elle est mère de famille de deux enfants et elle mène à Soufanieh, qui est le quartier chrétien de la ville de Damas, en Syrie, une vie familiale simple avec son mari Nicolas Natsour, qui est de 20 ans plus âgé qu'elle. Il se trouve que 7 mois après son mariage, alors que Myrna n'avait à l'époque que 18 ans, voilà qu'un événement tout à fait inexplicable fait irruption dans sa vie, au cours d'une prière. Un événement qui ne sera que le premier d'une longue série qui dure maintenant depuis 8 ans et qui peu à peu a transformé Myrna en une des femmes les plus surnaturelles et les plus inspirées de notre temps. Alors pour vous la présenter, j'ai demandé à un médecin français de se laisser interviewer. Il s'agit du docteur Philippe Leron. Le docteur Philippe Leron a un précédent. Il a déjà travaillé, entre autres, avec le professeur Joyeux, dans les examens sur les voyants de Medjugorje, lui s'occupant tout particulièrement du plan neurologique pour les voyants de Medjugorje. En effet, le docteur Leron est neurologue. Il est médecin des hôpitaux à la Salpêtrière, ancien interne des hôpitaux de Paris et ancien chef de clinique. Il a un cabinet privé de neurologue en médecine libérale. Il s'intéresse depuis des années à l'événement Soufanieh et nous bénéficions avec lui à la fois de la rigueur scientifique du médecin dans tous ces phénomènes qui touchent au corps même de Myrna, et nous bénéficions aussi de son enthousiasme, de son émerveillement de chrétien qui reconnaît en elle l'œuvre admirable de Dieu pour son Église, une œuvre admirable de Dieu pour son Église. Docteur Leron, vous étiez à Damas durant la semaine sainte de cette année 90, vous étiez auprès de Myrna. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots ce que vous y avez vu, entendu et observé?
Alors vous savez que nous nous sommes rendus avec un groupe de 13 Français à l'invitation du père Elias Sarfaoui, qui est un des témoins privilégiés des événements de Soufanieh depuis le début. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison de Myrna et de Nicolas à Soufanieh, nous avons été imprégnés d'une atmosphère de paix et de prière. Il faut dire que nous revenions juste de l'aéroport, et avant d'aller nous coucher, le père Elias nous a proposé de venir faire une prière devant la petite reproduction d'icônes dans la maison de Myrna. Nous avons été tous enthousiasmés à cette idée et nous nous sommes rendus en pleine nuit, le soir, il était assez tard. La porte était ouverte, comme c'est la coutume là-bas, dans cette maison. La porte est ouverte à tous ceux qui veulent y prier. Nous avons monté les escaliers, nous sommes rentrés dans la petite cour intérieure qui est recouverte. Et là, juste en face, il y a cette toute petite image qui mesure à peine 8-9 cm de long sur 6 cm de long, oui, toute minuscule, mais elle est mise sur un grand socle et recouverte d'une boule de plexiglas cadenassée pour qu'elle soit vraiment à l'abri des moindres choses. Et nous avons été accueillis par Myrna et son sourire, parce que je peux vous dire que son sourire, c'est quelque chose, elle est simple, elle est accueillante. Il y avait aussi ses parents, je crois, puis le père Malouli, qui est l'autre prêtre, témoin privilégié des événements. Et tout de suite, en montant ces marches, nous avons été bouleversés en ressentant cette atmosphère de paix et de prière. C'était une joie immense.
C'était quel jour de la semaine sainte?
Alors nous sommes arrivés le mardi 10 avril.
Ah oui, donc bien avant les événements.
Voilà, ben, les premiers événements, ça va être jeudi saint. Donc, deux jours après.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Alors, jeudi saint, c'était le grand événement extraordinaire. C'est l'ouverture des stigmates que nous avons vu vraiment devant nous. Et ça, c'est un événement extraordinaire, vraiment bouleversant. Vraiment bouleversant. Le samedi saint, nous avons vu l'extase de Myrna avec l'effusion d'huile, précédée d'effusion d'huile. Et puis enfin, dimanche, le troisième événement de cette semaine sainte, c'était L'icône avait suinté l'huile, avait émis de l'huile en abondance, et l'urne qui est juste en dessous, qui recueille l'huile, était remplie aux trois quarts. Vous comptez, ça fait 6 jours. En 6 jours de temps, on a eu 3 événements, qui nous ont vraiment choqués au bon sens du terme, qui nous ont bouleversés. On s'est dit, mais il va falloir des mois pour qu'on s'en remette. Et pourtant, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce. C'est confondant, c'est confondant. Et il y a même un prêtre qui a dit à propos des événements de Soufani, c'est de la provocation. De la part de Dieu.
De la part de Dieu, mais c'est bien quand Dieu provoque comme ça. Hein? On en a besoin. Bon, nous sommes assez ignorants sur les événements précédents cette semaine sainte 90. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit flashback de comment ça a commencé avec Myrna, comment vivait-elle avant et comment les premiers événements l'ont saisie, donc je crois en 82.
Oui. Eh bien, ce sont des gens très simples. Myrna, en 82, elle avait 18 ans, elle venait juste de se marier 7 mois auparavant. Le premier événement à avoir survenu, c'est le 22 novembre 1982. Myrna a été appelée auprès de sa belle-sœur qui souffrait de douleurs terribles. Et au moment d'une prière, pour soulager ses souffrances, Myrna a commencé à voir de l'huile qui se suintait dans ses mains. En priant, elle avait justement de l'huile qui est apparue. Et alors, elle raconte très bien ce qui s'est passé. Soudain, j'ai senti une chose étrange, indescriptible. Tout mon corps frissonnait, comme si une force était sortie de moi. Une jeune femme de confession musulmane, prénommée Miyada, a crié, « Myrna, qu'est-ce qu'il y a sur tes mains ?» De l'huile coulait de mes mains. Et alors, elle a appliqué ses mains pleines d'huile sur les endroits où sa belle-sœur souffrait, et celle-ci a été immédiatement soulagée. Alors, ils étaient bouleversés. Bon, son mari Nicolas, qui, je crois, est un ancien coiffeur, il a 20 ans de plus qu'elle, a été complètement bouleversé. Vous savez, on n'était absolument pas des piliers d'église, pas des dévots. Myrna avait une culture religieuse. Les prêtres le disent. Proche de zéro, elle connaissait juste le pater, l'Ave Maria, et elle savait faire le signe de croix. Voilà à quoi se résumait sa culture religieuse. Quant à Nicolas, il disait je pensais à Dieu que quand j'en avais besoin.
Oui, c'est ça.
Et alors, ensuite, 5 jours après, c'est une petite reproduction d'une icône que Nicolas avait ramenée d'un voyage de Bulgarie. Il avait acheté 10 reproductions à Sofia. Et l'une d'elles s'est mise à émettre de l'huile en abondance.
Alors ça, c'est
l'image même.
Le carton,
le papier, il y avait un petit verre qui recouvrait, mais c'est ça qui émettait de l'huile.
Ouais.
Et on s'est aperçu par la suite, parce que ce phénomène se reproduit de très nombreuses fois, que souvent le poids de l'huile émise dépassait largement le poids même de la photo.
Ah, ouais.
Donc c'est bien une création de l'huile.
C'est un petit peu comme le phénomène de Marie porte du ciel, alors.
Exactement, tout à fait.
Oui.
Et c'est un phénomène qui, on pourrait dire, est connu dans le monde orthodoxe.
Oui.
Comme Marie porte du ciel est une icône originaire du mont Athos, je crois, eh bien, c'est quand même une signature orthodoxe. Et il faut souligner, d'ailleurs, que le mari de Myrna est grec orthodoxe, de confession grecque orthodoxe.
C'est ça.
Tandis qu'elle, par son père, est de confession grecque-catholique, c'est-à-dire de rite byzantin, bien sûr, pour les deux. Alors, les événements se sont multipliés au fil des années. Il y a eu des émissions d'huile de Myrna, de ses mains, souvent à l'occasion de prières, ou même de pensées à la Vierge. Il y a eu l'icône, enfin, plus exactement, devrait-on dire la reproduction d'icône, puisque n'est pas une vraie icône, a émis de l'huile en abondance à plusieurs reprises. Et les choses se sont précisées assez vite, puisque Myrna a reçu des messages. Là, il s'agissait simplement de phénomènes silencieux.
Oui.
Mais Myrna a reçu des messages, d'abord au cours d'apparitions de la Vierge Marie. Elle a eu 5 apparitions de la Vierge Marie. À partir de fin 82 et 83, elle n'en a eu que 5. Après, elle n'en a plus eu.
Ah, oui. Ah ben moi, je m'en serais contentée. Hein.
Mais ce qu'elle, justement, devait-elle pas s'en contenter, puisqu'elle a eu, après, des phénomènes d'extase, qui sont différents. Vous voyez, c'est un peu la
même chose.
Parce que c'est pas la même chose que pour Medjugorje.
Ah oui, mais Medjugorje, l'extase est en même temps que l'apparition. Voilà. Donc l'apparition provoque l'extase, d'une certaine
Exactement.
Manière. Alors là, c'est différent pour Mirna.
Alors, c'est différent parce que on appliquait en fait le mot apparition pour Mirna, mais on aurait pu dire aussi extase au sens Medjugorje.
Ah oui, c'est ça.
Elle est entrée en extase puisque elle seule voyait l'apparition et oui. les autres qui étaient autour d'elle ne voyaient pas la Vierge Marie.
Et il y avait quand même les symptômes de pas... De...
Alors, si vous voulez, il n'y a pas eu d'études scientifiques. Hein.
Oui.
Donc, je ne peux pas en
elle
parler.
Elle était quand même déconnectée du monde extérieur,
ah,
comme
tout
les
à
voyants
fait.
Medjugorje.
Tout ouais. à fait, mais on ne pourrait pas dire complètement quand même, parce que quand elle voyait la Vierge, elle la voyait apparaître dans un arbre, en face de la terrasse.
Le fameux eucalyptus.
Le fameux eucalyptus.
Elle, oui.
elle voyait venir la Vierge vers elle.
Oui.
Et ce qui l'a frappé aussi, c'est qu'elle voyait que la Vierge traversait la balustrade de la terrasse. Il y a une histoire
sans
de...
la sauter, elle l'a
sans la sauter,
ça,
elle l'a traversée comme ça,
avec son corps
en marchant devant elle. Et elle laissait un sillage de lumière derrière elle. Et ça, ça l'a frappé, ce qui prouve bien qu'elle voyait quand même la balustrade.
Ah oui, c'est ça, oui.
Mais elle a touché aussi la Sainte Vierge Marie.
Est-ce qu'elle était embrassée par la Vierge Marie aussi, comme les voyants de Medjugorje?
Ah, je ne pense pas. Mais à un moment donné, la Vierge Marie lui a demandé de signer tous les participants ici, avec le pouce
oui.
sur le front,
oui.
et la Vierge Marie avec l'index. Et les gens ont donc vu Mirna faire un signe de croix dans le vide.
Ah,
mais
oui.
pour Mirna, c'était bien sûr signer la Vierge Marie.
Ah, oui.
Elle a donc touché la Vierge Marie. Elle l'a entendue, elle la voyait. Et elle l'a touché.
Ouais.
Et nous retrouvons là une cohérence de l'extase, comme pour les voyants de Medjugorje.
Ouais.
Mais ce qu'on appelle extase à Soufanié est une chose différente encore. Mirna rentre dans un état d'inconscience et elle est là profondément déconnectée du monde environnant. On peut la pincer, ce qui a été fait. Alors là, les médecins ont fait plusieurs tests. On peut même, il y en a un qui a même écarté un ongle du doigt. Alors, pendant l'extase, elle n'a absolument pas réagi, mais alors, je ne vous dis pas au réveil de l'extase.
Vraiment cruel.
Et je vous garantis que ce n'est pas ce qu'on appelle un test scientifique, quand même.
Non.
Et donc, pendant cet état, sa respiration devient très lente. Elle est dans un état, on dirait, proche de la catatonie.
Oui.
Elle peut être rigide.
Oui.
Quand elle a l'attitude des doigts un peu repliés, même le père Laurentin avait essayé en venant là-bas, et il n'est pas arrivé à étendre ses doigts. Elle est vraiment rigide, elle est même, on dirait qu'elle est froide, vous voyez,
ah
comme
oui.
si elle était peut-être sortie de son corps. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle dit, quand elle a une conversation pendant l'extase, il lui faut revenir, revenir sur terre pratiquement.
Un petit peu comme ceux qui font l'expérience de la vie après la vie. Hein.
Voilà,
en sorte qu'ils disent, j'ai senti que je sortais de mon corps et puis je suis revenue dans mon corps, que mon esprit... revenait dans mon corps, d'ailleurs c'était pas toujours très agréable, le retour n'était
non.
pas toujours très agréable,
oui, tout à fait.
Par contre la sortie, oui. Alors elle a cette impression aussi de revenir dans son corps.
Elle a eu cette impression, effectivement, mais même une fois la Vierge Marie lui avait demandé au cours d'une extase, parce que je précise qu'au cours d'extase, elle reçoit des messages ou de la Vierge Marie ou du Christ. Hein.
Oui.
Et donc, une fois la Vierge Marie lui a demandé de revenir en bas pour dire que avant d'être leur fille, elle était d'abord la fille de la Vierge Marie.
Ah oui, d'accord.
Et alors, ce qui est caractéristique quand même de ces extases, c'est qu'elles sont toujours précédées d'une abondante effusion d'huile du cou, du visage, surtout du visage et des mains de Mirna. Une seule fois sur les pieds. Lorsque c'est le Christ qui lui apparaît, et ça a été surtout le cas ces dernières années, eh bien, l'effusion d'huile commence dans les yeux, ce qui lui provoque une très forte brûlure. Et au début, il fallait même lui tenir les mains, de peur qu'elle se blesse les yeux.
Ah oui, elle sentait la douleur.
Elle sentait la douleur.
Insupportable, presque.
Insupportable, presque.
Ah, oui.
Et progressivement, elle sombrait dans cet état d'inconscience,
oui.
d'extase, où là, elle est remplie d'une lumière, elle voit une lumière blanche intense, et elle peut voir soit la Vierge, soit le Christ, mais plus souvent, elle le voit sous forme d'une silhouette encore plus lumineuse.
Ah oui, les distingue bien de la Sainte Vierge.
Oui, tout à fait. Puis alors sa voix, bien sûr, qui est, oui. qui est assurée, forte. Et c'est à l'occasion d'une de ces extases, proche de l'Ascension en 1984, qu'elle a reçu cette magnifique prière du Christ, où il lui avait dit « Ma fille, je suis le commencement et la fin. Je suis la vérité, la liberté et la paix. » Et alors, après, il lui indique une prière qu'elle doit réciter. Il lui dit « Prie pour que s'accomplisse en toi la volonté de Dieu et dis « Bien-aimé Jésus, accorde-moi de me reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous tes anges, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste. Car toi seul es le Très-Haut, toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Viens à moi et console-moi, et donne-moi les chaînes et accorde-moi la liberté. Car sans toi, ma joie est incomplète, sans toi, la table est vide. » Et le Christ a rajouté la chose suivante. « Alors je viendrai pour dire, me voici venu, car tu m'as invité. »
Oui, c'est magnifique, c'est très 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 beau.
Oui. Les messages que reçoit Myrna au fil de ses extases, ses apparitions, sont d'une profondeur spirituelle inouïe. Je ne pourrais pas vous en parler en tant que médecin, mais le père Laurentin avait donné ce témoignage lors de sa visite à Souffagné en 1987.
Pour en revenir aux apparitions, une petite question. Est-ce que la Sainte Vierge apparaissait à Myrna un petit peu comme à Medjugorje, c'est-à-dire avec des temps bien précis, ou bien au contraire faisait-elle des apparitions surprises, entre guillemets?
Eh bien, il s'agissait plutôt d'apparitions surprises, effectivement. Myrna était quand même en train de prier ou avec d'autres personnes, et à un moment donné, elle se sentait poussée, attirée, pour monter sur la terrasse. Et elle montait à toute vitesse. Il fallait aller la rejoindre pratiquement en courant. Et à ce moment-là, elle était agenouillée et elle avait l'apparition. Et au cours de ces apparitions, il y a eu des phénomènes tout à fait étonnants. Il y en a un où justement la Vierge Marie tenait son chapelet au-dessus des mains de Myrna, oui. et un filet d'huile a coulé en abondance sur les mains de Myrna.
Du chapelet, alors.
Du chapelet, oui. et s'est répandu par terre. Il y avait un...
Et alors les gens ne voyaient pas la Vierge, leur oui. entourage ne voyait ni la Vierge, ni le chapelet.
Ni le chapelet.
Ni le chapelet.
Mais ils voyaient l'huile en abondance, oui. qui coulait avec abondance, et elle recevait des messages. Et...
Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, un des messages principaux de la Vierge
alors,
dans son apparition?
Il y en a un, justement, c'est à la cinquième apparition, dans la nuit du 24 mars 83.
Précédant donc l'Annonciation.
Précédant l'Annonciation. Il faut faire cette remarque, effectivement, à Souffagné. À chaque fois, l'événement arrive la veille d'une fête. Jeudi saint, c'est pour le vendredi saint. Les stigmates ont lieu le jeudi saint,
ah,
au lieu d'avoir lieu le vendredi, mais c'est le jeudi.
Le jeudi dans la vigile ou le soir ou dans
l'après-midi,
l'après-midi.
Pour l'extase concernant la résurrection, elle a eu le message le samedi saint et non pas le dimanche de la résurrection. Vous voyez et là, c'est pareil.
24 mars.
Myrna a reçu ce message le 24 mars et ça concerne l'Annonciation. Car voici ce que dit la Sainte Vierge Marie. « Mes enfants, ma mission est terminée. En cette nuit, l'ange m'a dit, vous êtes bénie entre les femmes. Et je ne puis lui dire que, voici la servante du Seigneur. Je suis contente. Moi, je ne mérite pas de vous dire, vos fautes sont remises. Mais mon Dieu l'a dit. Fondez une église. Je n'ai pas dit, bâtissez une église. L'église qu'a adoptée Jésus est une, parce que Jésus est un. L'Église est le royaume des cieux sur la terre. Qui l'a divisé a péché. Et qui s'est réjoui de sa division a péché. Jésus l'a bâtie, elle était toute petite. Et quand elle a grandi, elle s'est divisée. Qui l'a divisée n'a pas d'amour en lui. Rassemblez. Je vous dis, priez, priez, priez. Qui sont beaux, mes enfants, à genoux, implorant. N'ayez pas peur, je suis avec vous.
ne vous divisez pas comme le sont les grands. Vous, vous apprendrez aux générations le mot d'unité, d'amour et de foi. Priez pour les habitants de la terre et du ciel.
Tiens, c'est curieux qu'elle ait demandé de prier pour les habitants du ciel. Est-ce qu'elle voulait dire les âmes du purgatoire?
Oui, certainement. Nous avions posé la question au Père Malouli qui nous a dit oui, c'est pour les âmes du purgatoire.
C'est un petit peu prier pour ceux qui sont sur la terre et prier pour ceux qui sont déjà dans l'au-delà et qui ne seraient pas encore entrés au ciel, justement. Ça doit être ça.
Tout à fait. Et il y a quand même quelque chose, on pourra peut-être y réinsister un peu plus tard, c'est un message qui invite à l'unité des chrétiens. Et là aussi, il faut signaler que lorsque Myrna a les stigmates, en dehors de la première fois où elle a eu des stigmates en novembre 83, les trois autres fois, c'était les jeudis saints où la fête de Pâques était commune aux catholiques et aux orthodoxes. C'est-à-dire la date coïncidait. Et ça s'est passé donc le jeudi saint 84, 87 et enfin cette année où nous nous sommes rendus. Et c'est un peu la raison de notre voyage aussi, c'est nous attendions probablement l'ouverture des stigmates puisque la date de la fête de Pâques coïncidait.
Est-ce que le Seigneur lui a signalé quand même que il avait choisi exprès ces temps où la Pâque était commune entre les orthodoxes et les catholiques pour lui faire vivre cette expérience ou...
Non, il ne lui a pas dit. Mais
on l'a constaté.
On l'a constaté. Et tout le message indique quand même cette invitation à l'unité des chrétiens. Et je pense quand même que notre Seigneur marque profondément justement cette joie où les catholiques et les orthodoxes se retrouvent pour fêter ensemble la crucifixion et la résurrection du Christ.
Mais alors ça veut dire qu'elle va rester plusieurs années sans stigmate, puisque je crois que la prochaine année où la Pâque orthodoxe et la Pâque catholique tombent ensemble, c'est dans 10 ans ou 11 ans.
C'est en 2001.
C'est en 2001, on n'est pas encore rendu.
Non, mais le Christ n'a pas dit que ça serait en 2001, il a dit lorsque la fête sera unifiée.
Ah, alors, ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que je pense qu'il faut faire tous nos efforts pour unifier vraiment le...
Voilà.
D'une part la Pâque, mais c'est symbolique, et il faudrait que tout suive ensuite.
Est-ce que depuis l'événement Myrna, je mets entre guillemets l'événement Myrna à Soufanié, est-ce qu'il y a eu justement dans les relations orthodoxes et catholiques des événements qui nous font présager qu'une unité est en train de se bâtir, justement?
Je pense que oui. Je ne sais pas si c'est l'événement Myrna, entre guillemets, qui influence beaucoup ces rapprochements, mais il faut quand même signaler qu'en avril 1984 a été signé entre le pape Jean-Paul II et le patriarche orthodoxe de rite syriaque demeurant à Damas, un concordat de réciprocité sacramentale.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Alors, si j'ai bien compris, d'abord, c'est une reconnaissance de foi commune. Donc ça, c'était très important, réaffirmer la double nature du Christ en parfaite communion de foi, aucune divergence. Et deuxièmement, admettre que les sacrements administrés par l'autre Église sont reconnus valides pour les fidèles de sa propre Église, en l'absence des prêtres de sa propre Église. Mm-hmm. Et je crois que ce concordat aussi lançait la possibilité d'échange pastoral, d'éducation pastorale. Donc c'est très important parce qu'il est survenu après 15 siècles de séparation
15 siècles.
Entre les catholiques et les orthodoxes.
Il ne s'est pratiquement rien passé,
oui.
Ou très peu.
Ou très peu. Hein. Oui, il y a eu quand même des...
Avec Paul VI.
Oui. Avec Paul VI, qui d'ailleurs avait aussi... fait une déclaration de foi commune avec l'Église copte orthodoxe.
Oui.
Mais en fait, l'Église copte ne se considérait pas séparée de Rome absolument. Donc là, l'événement est quand même encore plus d'importance. Et il faut signaler que le patriarche Zacharias, ce patriarche orthodoxe, est tout à fait au courant des événements de Soufanié.
Oui, alors. Oui.
Et justement, il est tout à fait favorable. Il a vu de ses yeux, il a vu l'huile suintée des mains de Myrna, chez lui, à son patriarcat. Et j'ai appris, lors d'un voyage récent du père Elias Sarflaoui, à Paris, qu'il a même fait une déclaration officielle en vidéo, en Syrie, au mois de mai de cette année, disant tout ce qu'il avait sur le cœur concernant les événements de Soufani. Que même s'il ne s'était pas rendu sur place pour des raisons protocolaires, il suivait ça avec attention et qu'il considérait que c'était le doigt de Dieu. Alors il est quand même significatif de voir que, en étant un observateur aussi très attentif, il est aussi tout à fait ouvert au véritable œcuménisme.
Et vous-même, vous êtes venu à Soufani en tant que pèlerin, mais aussi en tant que médecin, donc scientifique. Et est-ce que vous pouvez nous dire, justement, en tant que scientifique, quelles sont vos observations sur la question ?
Alors, mes observations et aussi ce que j'ai pu recueillir comme information, notamment à partir du livre que je recommande de Christian Havas sur Soufani aux éditions Mambré, car il reprend vraiment les premiers événements en 82 jusqu'à 87 à peu près. Et il parle bien aussi de toutes les analyses scientifiques qui ont été faites sur l'huile, aussi bien l'huile de la reproduction d'icônes que l'huile de Myrna. Des analyses ont été faites dans plusieurs laboratoires en Allemagne fédérale, à Rome, à Paris, à Damas, et toutes concordent, il s'agit d'huile d'olive pure à 100%. Or, dans le commerce, on ne pourrait pas trouver une huile aussi pure. C'est donc un phénomène déjà tout à fait étonnant.
Et quand on... sans aucun mélange, par exemple, il n'y a pas de cholestérol humain
ou de... Alors, il n'y a pas de cholestérol humain dans les analyses qui ont été faites. Et il faut savoir que parfois, l'huile est parfumée aussi. Alors, ça pose un problème aussi dans l'analyse. Mais on ne retrouve que de l'huile d'olive pure à 100%. Alors, ça, c'est une chose. Et bien entendu, il y avait eu une vérification au début. Ça, c'était les autorités locales qui avaient voulu vérifier. Mais est-ce qu'il n'y a pas une supercherie dans l'icône ? Est-ce qu'il n'y a pas des tuyaux qui
arrivent ? Ils sont venus, ils ont envoyé des émissaires.
Ils ont envoyé des émissaires et un médecin aussi. Et le médecin qui a vu Myrna, ils ont bien essuyé les mains de Myrna. Ils ont dit, maintenant, prie Myrna. Elle s'est mise à prier et lui, il a commencé à exsuder abondamment de ses mains. Et les émissaires ont voulu démonter la petite image de son cadre. Ils ont d'ailleurs arraché un petit morceau qu'on voit sur le, en haut à droite. C'est une partie qui a été arrachée lors de cette manipulation. Et au moment où il démontait, l'huile a commencé à couler. Il n'y avait bien sûr pas de tuyau. Et ils ont refermé ça tout de suite. Les agents de la sûreté étaient évidemment musulmans. Et le médecin a pointé l'index vers le haut en disant « C'est l'œuvre de Dieu ». Mais il y a eu d'autres phénomènes extraordinaires. Il y a eu un jaillissement d'huile de la terrasse, là où était apparue la Vierge Marie. Il y avait des ouvriers en travaux, des ouvriers musulmans, avec le père de Myrna, qui est catholique, et tout d'un coup, l'huile a jailli en abondance jusque dans les yeux du père de Myrna, et il est resté comme ça, très gêné de la vue pendant quelques jours. Et une trace est restée dans la pierre encore actuellement. Une trace est restée encore actuellement. Et aux dernières nouvelles, le père Elias Zahlaoui m'a dit que le 7 septembre de cette année, l'huile a encore jailli de la terrasse. La veille du 8 septembre.
Avec le symbolisme de l'huile, on verra ça tout à l'heure. C'est vraiment jaillissement de l'Esprit Saint.
Oui.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Alors pour continuer l'aspect scientifique, bien entendu, pour la plupart des stigmates ou des extases, les pères Zahlaoui et Malouli ont toujours tenu à ce qu'il y ait des médecins qui viennent pour examiner les plaies, pour examiner les réflexes pendant l'extase. Ce que l'on peut dire des plaies, c'est que il est évident que ce sont des plaies réelles, qu'il n'y a pas de supercherie. La peau grossit comme un durillon, quelques jours avant, souvent, oui. C'est douloureux, et puis après elle éclate. Et elle éclate, elle est transpercée comme par un fin couteau. Vous voyez, c'est quelque chose de très finement dessiné. Et c'est la même chose pour les plaies des mains, ou des pieds, ou de la plaie du côté. Les deux premières fois, les plaies s'étaient refermées le soir même, en moins de 10 heures. Ce qui n'est pas normal, c'est inexplicable scientifiquement. Le sang des stigmates a été analysé, il est conforme au sang veineux de Myrna.
Ah oui.
Donc il s'agit bien d'un fait réel. On pourra toujours poser la question de savoir est-ce que c'est d'ordre psychologique ou non. Mais là c'est un grand débat et c'est curieux de voir comme les gens se débarrassent parfois d'explications en disant ça c'est psychologique et ça ne mène pas à la profondeur des choses. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est, moi je l'ai observé cette année, pendant 6 jours on revenait tous les jours et puis au moment des événements, en aucun cas je ne pourrais dire que Myrna est une hystérique ou une névrosée. Son comportement est simple, il est naturel, et il n'y a rien à cacher à souffagner. Tout se passe devant nos yeux, il n'y a pas de mystère. C'est tellement époustouflant, c'est tellement confondant, il n'y a vraiment rien à cacher. Alors, en ce qui concerne les réflexes au cours d'extase, évidemment, on a vu que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça serait un état proche de la catatonie avec l'absence de réflexes. Moi, je crois qu'on ne peut rien en conclure de fondamental avec ça. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ce n'est pas une simulation, ça, c'est bien évidemment, et que ce n'est pas de l'hystérie.
Alors, comment dissociez-vous cette expérience de celle de l'hystérie, justement ?
Alors, dans l'hystérie, vous savez, il y a un comportement général. Et il faut le voir en dehors même des événements hystériques.
Oui.
Et chez Myrna, il y a une discrétion, il y a une simplicité naturelle dans sa vie de tous les jours qui indique bien évidemment qu'elle n'est pas hystérique. Une fois, d'ailleurs, il y avait une personne qui était venue se rendre chez Myrna et Myrna était en train de laver par terre à la serpillière. Et elle entre, elle dit, mais où se trouve la voyante ? Alors Myrna répond que c'est elle.
Ouais.
Elle dit, mais comment, vous qui avez de l'huile qui coule de vos mains, vous êtes en train de nettoyer la serpillière par terre ? Et Myrna lui a répondu du tac au tac, mais la Sainte Vierge, elle n'avait pas de bonne.
Elle est bonne celle-là.
C'est le cas de le dire.
Ouais.
Alors donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pu voir moi-même les plaies, puisque les stigmates se sont ouverts ce jeudi 5, 90. Et le sang était vraiment sang typique, hein, très, très rouge, très clair. Les plaies vraiment finement dessinées. Et tous les jours suivants, jusqu'à mon départ, j'ai pu examiner les plaies. Le père Malouli, il tenait, d'ailleurs, il dit, venez voir, venez voir. Alors le lendemain matin, le vendredi, je suis allé voir Myrna, qui avait fait sa vaisselle sans ménagement, sans porter de gants,
avec ses plaies ouvertes.
Avec ses plaies, bon, qui se refermaient, mais sans précaution. Juste, elle mettait un petit peu d'eau pour nettoyer les plaies.
Elle avait mis des gants en caoutchouc, mais elle
n'avait
rien.
Il n'y avait aucun pansement, il n'y avait rien du tout pour protéger les plaies. Elle avait fait la vaisselle, elle faisait le ménage. Je l'ai vue donc en train de faire ses travaux ménagers, à la fin, quoi. Et le père Malouli m'a dit, ben, maintenant, examinez les plaies. Alors, c'est très net, hein. Il s'agissait d'une petite fente qui traverse un des sillons horizontaux de la main, sur à peu près 1 centimètre, très très fine, sur la paume donc de la main, pas du tout sur le dos, hein, ça n'a jamais eu lieu sur le dos. Et aussi, la même chose, sur le dos des pieds, pas du tout sur la plante, ça n'a jamais eu lieu non plus sur la plante. Alors vous voyez, ça c'est très net, il y avait une petite irritation locale, enfin une petite réaction inflammatoire, ce qui est tout à fait normal, mais aucune trace de suppuration. Et jusqu'au lundi, je voyais tous les jours ces plaies qui continuaient à cicatriser normalement. Là, cette fois-ci, effectivement, il n'y a pas eu de cicatrisation en 10 heures. Elle s'est faite vraiment au fil des jours comme une plaie normale. Et les plaies du front aussi, puisque elle a eu les stigmates au front avec des coulées de sang venant du front, pour indiquer la souffrance de la couronne d'épines, là aussi, elles ont eu le même processus de cicatrisation. Juste au pied, elle a eu une petite réaction inflammatoire un peu plus forte parce que elle portait, le vendredi saint, justement, elle portait des bains en nylon pour assister à la cérémonie de l'ensevelissement, quoi, de la crucifixion et de l'ensevelissement du Christ. Et donc, ça retardait peut-être un peu la cicatrisation.
Et la plaie du cœur ?
Et la plaie du cœur, c'est une plaie au côté qui est très fine et très longue. Cette année, elle mesurait 12 cm, d'autres années aussi, ou 10 cm. Et elle n'est pas du tout profonde, sauf une fois, c'était en 84. Elle avait été tellement profonde, une personne de l'assistance avait dit « mais il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital pour la faire recoudre
oui. »,
tellement elle était importante. Et Nicolas avait répondu…
Son mari.
Son mari. Il avait dit… celui qui a ouvert la plaie la refermera.
Ah, ça c'est bien, quelqu'un qui a des bons sens.
Et c'était le cas, effectivement. Alors, il y a eu des médecins qui ont examiné ces plaies les années précédentes, des biologistes aussi. Et cette année, moi, je vais vous amener, ce sont des plaies tout à fait normales, mais on ne sait pas comment elles ont pu être faites. Tout s'est déroulé devant nous. Hein. Nous étions autour de son lit, elle était allongée. Vraiment, il n'y a pas de supercherie, on ne peut pas le noter. En plus, notre vidéo retrace ces événements, donc... tout un chacun peut se faire une idée de ce que nous avons vécu cette année.
C'est ça qu'il faut signaler, extraordinaire. Parce que c'est un événement tout à fait exceptionnel, en tout cas unique dans l'histoire, hein, en tout cas des stigmates, c'est que toute la stigmatisation de Myrna, cette année, a été filmée en vidéo, oui. Et on peut se procurer ces vidéos. Est-ce que pouvez-vous nous dire, peut-être une petite parenthèse, comment se procurer la vidéo et...
Eh bien, nous avons créé une association loi 1901 et nous la distribuons à partir de l'association Notre-Dame de Souffagnier. L'adresse est 8 allée Victor Hugo, 95 680 à Montlignon. Voilà, donc on peut se la procurer en commandant à l'association. Les gens recevront d'abord un formulaire et puis ensuite... par échange de courrier, ça sera
pour quel prix, excusez-moi,
160 francs.
D'accord.
C'est une cassette malheureusement d'amateur, puisque a priori nous n'avions pas prévu même de venir avec un caméscope dont on a pu filmer. Vraiment providentiel du début jusqu'à la fin.
Moi j'ai vu cette vidéo, c'est extraordinaire de voir ce pied, un pied tout à fait normal, et d'un seul coup voilà. Le sang apparaître. Comme ça, et couler de ce pied, de cette main.
Et on a eu la chance de voir vraiment le pied, le dos du pied, parce qu'elle s'est rassise un tout petit peu avant l'ouverture des stigmates, et on a pu la prendre en photo et en vidéo. Il est intact, juste il y a un petit durillon rosé au-dessus, en relief, à peine en relief, et c'est là que la peau va éclater et le sang fera irruption.
C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur... justement l'emplacement des stigmates, parce que certaines études, en particulier du Suer, nous ont montré que la plaie du Christ n'était pas dans la paume de la main, mais beaucoup plus sur le poignet, au milieu de tous ces nerfs qui sont si douloureux.
Voilà, c'est tout à fait exact. Je crois qu'on peut dire que, même pour tous les stigmatisés, il ne faut pas chercher une exactitude anatomique par rapport aux souffrances et aux plaies du Christ. De même pour la couronne d'épines. Il semble bien aussi, d'après les études sur le linceul, qu'il y ait eu une couronne de joues avec des épines qui étaient posées sur le crâne, comme un casque, sur le cuir chevelu. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir les plaies sur le front. Elles seraient plutôt dans le cuir chevelu. La plaie aussi n'a pas de raison d'exister pour les stigmatiser, puisque le Christ a reçu la lance après la mort. La plaie du cœur, la plaie du côté.
Oui.
Il n'a donc pas pu souffrir de cette plaie. Et en plus, elle devait être déterminée sur le flanc droit et non pas à gauche. Pour ce qui est des plaies des mains et des pieds, chez Myrna, il n'y a pas de transpercement de part en part.
Oui.
Et puis, l'aspect de la plaie n'est pas celle d'un enclouage non plus. Donc, pour toutes ces raisons, il est bien évident qu'il ne faut absolument pas chercher une exactitude anatomique. Il s'agit d'une participation mystique aux souffrances de la Passion du Christ, et comme il s'agissait de la Semaine Sainte, on voit bien ce que ça veut dire, la signification. Donc, ça, c'est quand même très important de le souligner. Il faut rappeler aussi que Thérèse Neumann, qui était stigmatisée, mais qui aussi avait des visions, était stigmatisée pour la main, au centre de la main, dans la paume, mais qu'elle voyait bien que les clous étaient enfoncés dans les poignets du Christ, et non pas dans la paume de la main. Donc, c'est important de signaler, d'autant plus pour dire qu'il n'y a pas de projection d'ordre psychologique. Ce ne sont pas ces visions qui ont influencé les stigmates, et vice-versa.
C'est ça.
Ce sont bien là deux phénomènes, deux grâces différentes.
Est-ce que vous avez pu savoir par Myrna quelles étaient les souffrances qu'elle endurait au moment de cette stigmatisation ?
Eh bien, je crois qu'on peut s'en faire une idée en la voyant souffrir. Et
c'est assez bien retracé aussi sur la vidéo. Par moments, elle se tourne, elle se tient la tête, elle gémit. Mais ce que l'on peut dire, hein, c'est qu'elle reste très pudique devant la douleur et on l'entend gémir à peine. Mais il n'y a jamais de hurlement ni de cri affreux qui pourrait dire c'est une hystérique en train de jouer la comédie. Oui. On voit bien qu'elle souffre et elle se retient, elle est tellement pudique que son visage retient cette souffrance et on voit bien qu'elle souffre. Et cette année, pour la première fois, elle a souffert aussi du dos, comme si elle avait reçu les coups de la flagellation. Oui. Ce n'était pas le cas les autres fois. Et elle a souffert aussi d'une profonde oppression thoracique, une difficulté respiratoire.
Comme un étouffement. Alors.
Comme un étouffement.
Ouais.
Est-ce pour signifier l'agonie du Christ sur la croix?
Oui, parce qu'il était comme tétanisé.
Comme tétanisé par moments, oui.
Oui, oui.
Et les plaies lui faisaient encore mal le lendemain, ce qui était aussi une chose inhabituelle. Ouais. Donc il semble bien que le Christ ait voulu la marquer de souffrance cette année-là, mais en même temps elle avait plus de force pour le supporter et elle nous l'a dit, elle l'a quand même mieux supporté que les autres fois.
Et la stigmatisation a duré combien de temps? Je veux dire, à partir de quand a-t-elle pu se relever et être réanimée en quelque sorte?
Oui, la stigmatisation en elle-même se passe en toute conscience, elle ressent bien vivement la douleur, elle n'est pas en extase. Il est arrivé d'autres fois que des extases ont suivi la stigmatisation. Cette année, non. C'était un jour différent. Mais elle est en pleine conscience. Lorsque les stigmates commencent, elle est tellement épuisée qu'il faut l'allonger dans sa chambre, sur son lit. Ça avait commencé vers 11h15, 11h30. Et l'ouverture des plaies des mains et des pieds a eu lieu vers 13h30, 14h. Elle est restée ensuite allongée jusqu'à ce qu'elle puisse se joindre à la prière du soir qui était vers 18h.
Ah oui.
Elle est restée donc tout l'après-midi.
Heures, oui.
Plusieurs heures, oui.
Et elle a pu se joindre à la prière du soir.
Elle a pu se joindre à la prière
dans
du soir.
Fatiguée quand même.
Fatiguée, mais elle a pu se relever, oui. Accompagnée de son mari, puis de l'un de ses petits-enfants, parce qu'elle est mère de deux enfants. Et elle a même chanté. Hein.
Est-ce qu'elle a ressenti avant la stigmatisation toute cette partie de l'agonie du Christ de Gethsémani, avec l'angoisse, la détresse qui est décrite dans les évangiles?
Je ne crois pas qu'on puisse le dire pour le Jeudi Saint, mais Myrna nous a bien dit que, enfin, c'est parce qu'on l'a interrogée, on était surpris de voir qu'elle ne mangeait pas. Elle nous a dit qu'elle jeûnait déjà depuis 7 jours.
De jeûner, c'est-à-dire pas elle, du tout de nourriture?
Non, elle buvait
même
peut-être un tout petit peu, même pas du pain. Une seule fois, elle a pris un morceau de pain avant le Jeudi Saint.
Oui.
Mais ça faisait plusieurs jours, elle n'avait plus envie de nourriture, elle n'avait même pas faim.
Ah, elle n'avait même pas faim.
Elle n'avait même pas faim. Et on sentait quand même qu'elle souffrait moralement. Je vous signalerai aussi que lorsque j'ai examiné les plaies, j'ai pu me rendre compte, pour le dos des pieds et pour le côté, qu'il y avait un peu décalé, une trace blanche dans la peau qui correspond effectivement à d'anciennes cicatrices.
Ah oui,
à d'anciennes plaies, quoi.
Ce sont des stigmatisations des années.
D'années précédentes, oui. Effectivement. Et ces marques existent toujours sous forme d'une légère dépigmentation de la peau.
Oui.
Ceci est encore pour confirmer le caractère authentique des stigmates.
C'est ça. Y a-t-il eu d'autres examens médicaux sur Myrna?
Alors, je vous signalerai tout de suite qu'il n'y a pas eu d'électroencéphalogramme comme pour les voyants de Medjugorje.
Ah bon?
On aurait pu poser la question, effectivement.
On a tout préparé tout ça pour 2001, au moins.
Et on le souhaite, peut-être, avant. Mais oui, je crois qu'il y a eu, effectivement, là, il y a eu un épisode où, très particulier, je vais vous en parler, où il y a eu un examen ophtalmologique pour vérifier donc l'état normal des yeux de Myrna. C'était en novembre 84. Au décours d'une extase, je crois, en tout cas, Myrna avait été prévenue que le Christ allait lui prendre les yeux.
Comment ça, lui prendre les
yeux? Lui prendre la vue.
Ah, c'est ça.
Lui prendre la vue. Lui retirer la vue.
Oui.
Et elle voulait presque rassurer sa famille avant que ça n'arrive. Et c'est arrivé, donc, elle est devenue aveugle pour le monde environnant, pendant 3 jours et 3 nuits. En fait, elle ne voyait que de la lumière. Elle était aveuglée par une grande lumière, et cet épisode, je crois, nous fait penser à la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas.
Tout à fait, à la suite de son illumination.
Nous y sommes. Oui. À la suite d'une illumination où il persécutait l'église chrétienne primitive, et sur le chemin de Damas, il a été englobé d'une grande lumière, et le Christ lui avait dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et à partir de ce moment-là, saint Paul est resté aveugle au monde environnant pendant 3 jours et 3 nuits.
Et il est resté aussi sans manger.
Et il est resté sans manger, sans boire. Car effectivement, vous faites bien de me le dire, Myrna aussi est restée sans manger, sans boire.
C'est incroyable que cette même expérience soit faite dans le même lieu 2000 ans plus tard avec les mêmes symptômes. Sauf que Myrna n'était pas comme saint Paul, elle ne persécutait pas les chrétiens.
Non, mais n'est-elle pas aussi un témoin privilégié?
Et appelée à être apôtre.
Apôtre d'une conversion merveilleuse.
Oui, de l'unité de l'Église.
Et de l'unité de l'Église. Oui. Et donc, là, le sens est très fort en ce qui concerne la réunion à saint Paul, qui a prêché parmi les païens.
Oui. Oui, c'est ça.
Qui a été l'apôtre des païens. L'apôtre des gentils. Les choses, effectivement, à Soufanié sont tellement frappantes qu'on est sous le coup d'un choc, un véritable choc spirituel, comme saint Paul l'avait été, parce que pour lui, c'était quand même radical comme changement.
Oui. Il y a eu un avant et un après.
Vraiment.
Oui, oui.
Et on peut dire que les événements de Soufanié n'ont aucune explication scientifique valable. Il y a eu des scientifiques de très haut niveau qui sont venus soufanier dans leurs spécialités différentes. Je ne parle pas seulement de la médecine. Aucun n'a pu avancer une explication satisfaisante.
Rationnelle.
C'est inexplicable scientifiquement. Pas seulement médicalement, mais aussi géologiquement, si je puis dire, pour l'huile qui sort de la pierre, ses jaillissements, ou d'autres endroits. On peut parler aussi de coton qui était sec, qu'on a frotté sur la petite icône. Une fois rentrés chez eux, les gens ont retrouvé le coton imbibé d'huile. Là, c'est bouleversant parce que. Et puis quand on voit pourquoi l'huile en Orient, c'est très fort comme symbole.
Oui, pouvez-vous nous parler en 2 minutes du symbolisme de l'huile en Orient, justement?
L'huile est très traditionnelle. Bon, c'est une source de chaleur et de lumière, parce que avant l'électricité, on s'éclairait bien grâce à cela. Donc une source de communion autour de la chaleur, autour de la lumière, de rapprochement de famille, de sympathie, d'amitié. Et puis c'est aussi une connotation très sacrée, éminemment sacrée, comme on le voit dans la Bible. D'une part, pour les onctions des rois, les rois d'Israël étaient oints par les prophètes.
Comme le roi David.
Le roi David a été oint par Samuel, et c'était ensuite une tradition. Chaque roi était oint d'huile, d'où aussi le Saint-Crème pour les rois de France. Et c'est aussi un symbole de guérison. C'est un baume, le baume guérissant, l'huile qui guérit. Et en plus, une huile d'olive, le symbole de l'olivier, c'est la paix. Donc c'est un symbole de paix.
Oui.
Un symbole de paix, de consécration, d'amour, d'amitié, de chaleur, de guérison. Et c'est un signe qui parle profondément aux orthodoxes. Peut-être beaucoup plus qu'à nous, occidentaux et catholiques. En revanche, les stigmates vont beaucoup plus nous parler.
Et c'est ça que j'allais vous dire. C'est quand même très beau de la part de Dieu d'avoir permis que dans une même famille, puisque Myrna est quand même catholique, grec catholique, son mari est grec orthodoxe, donc l'église orthodoxe, eh bien, qu'il y ait ces deux phénomènes en même temps du suintement de l'huile qui est typiquement de l'église orientale orthodoxe, et ce phénomène mystique de la stigmatisation que pratiquement dans l'histoire on ne retrouve que chez des catholiques. Quand on regarde tous les stigmatisés de l'histoire, pratiquement ils sont tous catholiques. Et qu'il y ait ces deux phénomènes chez la même personne, au milieu d'un couple qui est dit religieux. Enfin, je veux dire,
absolument.
C'est déjà un signe c'est déjà une marque d'unité que le Seigneur imprime dans cette famille, et qui est déjà comme la famille qui va entraîner beaucoup, beaucoup d'autres familles et les églises elles-mêmes à s'unifier. Je trouve ça très, très beau. Et dans l'histoire, c'est unique.
C'est tout à fait unique, en effet. Et pour revenir donc à cet épisode de cécité lumineuse qui a duré 3 jours et 3 nuits de Myrna, il faut signaler un fait tout à fait remarquable aussi. Lorsqu'on lui présentait, sans la prévenir bien sûr, des objets bénis, eh bien son
comme
regard...
Par exemple quoi, des images, des chapelets?
Des images, voilà, oui, c'est des ça, images, des chapelets. Ouais. Elle était immédiatement attirée. Elle regardait fixement cette image et elle voulait même le saisir. Et par deux fois, le père Malouli lui avait présenté une image, et par deux fois, donc, elle a mis ses deux doigts directement sur les deux yeux de la Vierge Marie qui était représentée sur l'image. Mais comme ça, sans hésitation. Il n'y avait pas d'erreur. Elle a même aussi, je crois, à cette occasion-là, ouvert la Bible par moment, et elle tombait sur des passages concernant les aveugles dans l'Évangile.
Ah oui, curieux.
Et alors, elle nous a expliqué... Pourquoi elle se dirigeait son regard? C'est que cet image était pour elle encore plus lumineux que le reste de la lumière qu'elle voyait.
C'est-à-dire qu'elle ne voyait pas l'image, mais elle voyait
un
supplément de lumière.
Un supplément de lumière, oui. Voilà. Oui. Elle était attirée par un supplément de lumière. Ah. Et elle voulait presque la saisir, mais son geste n'était pas hésitant. Mais on voyait bien que pour le reste, elle était absolument aveugle, se comportait comme une aveugle. Et donc c'est à cette occasion-là qu'il y a eu un médecin ophtalmologiste qui est venu, qui a examiné ses yeux, et il n'a trouvé aucune raison, aucune explication pour ce phénomène.
Oui. Vous savez que ce que vous me racontez, là, ça me fait tout à fait penser à un message de la Sainte Vierge à Medjugorje, transmis donc par les voyants, la Sainte Vierge recommande que dans toutes les maisons, il y ait des objets bénis. Et que c'est d'ailleurs une très bonne arme pour la lutte spirituelle contre Satan. Qu'il faut porter sur soi des objets bénis et en avoir dans sa maison des images, des icônes, des crucifix, des objets bénis.
Oui. Certainement.
Nous en arrivons maintenant à parler des fruits de cette extraordinaire aventure de Myrna, des fruits visibles, tangibles. Avant, on va peut-être faire une petite parenthèse sur une question que je me dois de vous poser. C'est la reconnaissance officielle de l'Église. Qu'en est-il exactement?
Ah, bien, vous savez que Myrna, étant mariée à Nicolas de confession grecque orthodoxe, tous les événements maintenant dépendent du patriarcat orthodoxe.
D'accord.
On peut s'interroger, parce qu'elle est grecque catholique, on aurait pu penser que c'était les catholiques qui devaient s'en occuper, mais ce n'est pas le cas. La coutume est que ça dépend en fait du mari. Donc, c'est entre les mains, normalement, du patriarcat grec-orthodoxe, c'est-à-dire de rite byzantin. Or, il se trouve qu'au départ, le patriarche était tout à fait favorable, et il avait même voulu transporter en grande pompe la petite image dans l'église de la Sainte-Croix, mais au bout de quelques mois, s'apercevant que l'image n'avait pas exsudé une seule goutte d'huile dans l'église, il avait installé beaucoup de troncs autour, espérant peut-être, vous voyez.
Oui, on avait mélangé certaines choses, l'argent et
voilà.
Oui, oui.
Et le retour, je peux vous dire, ne s'est pas fait en grande pompe.
Oui.
Et entre-temps, d'ailleurs, une autre production avec exsudé l'huile dans la maison de Myrna. Donc, indiquant bien que la Vierge Marie voulait donner son signe chez elle et non pas dans l'église orthodoxe. D'ailleurs, la Vierge Marie avait dit dès le début: ma fille Marie ne craint pas. Je signale que Myrna, c'est aussi Marie, son prénom.
D'accord.
Je suis avec toi. Ouvrez les portes. Ne privez personne de ma vue. C'était donc la volonté de la Sainte Vierge Marie que la maison de Myrna soit toujours ouverte à la prière.
Ah, oui.
Et ça a été le cas depuis. Oui. La porte est toujours ouverte toute la journée et la nuit, quand des gens s'y présentent pour prier, ils viennent ouvrir avec le sourire à n'importe quelle heure de la nuit.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Il y a absolument... il y a refus de tout don. C'est la gratitude complète.
Je crois que ça, c'est une intention
très
belle de la Sainte Vierge. Oui. Parce qu'effectivement, chez Myrna, on n'a absolument pas la possibilité de donner quoi que ce soit, ni argent, ni une chose en nature. Alors que dans l'Église, on avait mis des troncs. Et il faut bien reconnaître que ça devenait presque une affaire voyez ce que je veux dire, et ça c'est pas, c'était pas du tout l'intention de la Sainte Vierge.
Ah,
je
crois pas
que c'est
du tout.
La raison pour laquelle finalement tout était arrêté au niveau de, du saintement.
Et voilà. Et alors depuis cet événement, le patriarcat fait mine d'ignorer complètement l'événement.
Ah, oui.
En revanche, des évêques qui devraient pas être concernés, qui ne devraient pas être concernés comme des évêques catholiques, grecs catholiques, ou alors le patriarche syriaque orthodoxe, s'y intéressent bien assidûment, et ils y croient, ils sont tout à fait convaincus de l'authenticité des événements de Soufanié. Il faut signaler aussi que le nonce apostolique, lui-même, est tenu régulièrement informé. Il a vu aussi les mains de Myrna suinter l'huile, et il a eu, je crois, même aussi une petite image qui a suinté l'huile dans le bureau de son secrétaire. Donc, voyez.
Alors peut-être que la reconnaissance sera en quelque sorte poussée ou provoquée par, par la base ou par d'autres choses
mais souhaitons-le.
Tangentes. Et...
Souhaitons-le, parce que là, on...
Là, pour l'instant, c'est le point zéro.
C'est le point zéro par les autorités officielles qui avaient pourtant fait une déclaration au début. Disons que la famille des Nazours était tout à fait remarquable.
Oui.
C'était des chrétiens. Enfin, vous voyez, hein, que ça paraissait être un phénomène miraculeux, que pour Dieu, les miracles étaient habituels et qu'il n'y avait pas de quoi s'étonner, parce qu'il peut être au-delà des lois naturelles qu'il a créées aussi.
Ouais. Bon, maintenant donc...
Alors, en ce qui concerne les fruits, bon, les fruits de guérison, d'abord, je crois qu'il faut parler de l'appel à la prière qui est ressenti dans la maison de Myrna. Cet appel est universel, en quelque sorte, puisque des musulmans viennent se joindre à la prière.
Il faut dire aussi qu'en Syrie, il y a plus de 80% de musulmans dans la population.
Ah, tout à fait. Les chrétiens sont en minorité, partagés entre les orthodoxes, les catholiques et des protestants. Et donc, la majorité de la population est musulmane. Eh bien, des musulmans viennent se joindre à la prière à la Vierge. Ce n'est pas non plus sans rappeler ce qui s'est passé en Égypte, à Zeytoun,
au Caire,
oui. Dans un quartier du Caire,
oui.
La Vierge Marie était visible pour des milliers de personnes
au-dessus du toit de l'église
copte orthodoxe, et des milliers de musulmans l'ont vu et ont été guéris. Je crois qu'il y a pas des milliers, mais enfin il y en a qui ont été guéris.
Oui.
Et ici c'est pareil, les musulmans se sentent, certains en tout cas, se sentent interpellés par l'événement.
De toute façon, les musulmans, même dans le Coran, reconnaissent que Marie est la mère de Jésus. Et reconnaissent que c'est la plus sainte de toutes les femmes.
Tout à fait.
Déjà deux points tout à fait en commun avec les catholiques, même si par ailleurs il y a des divergences notoires.
Tout à fait. Et alors, donc à Soufanié, il y a eu aussi des conversions, des guérisons spirituelles. Ceci est donc difficilement appréciable, parce que ce sont souvent des témoignages très discrets ou très personnels. Des guérisons physiques aussi, il y en a eu. Les pères Malouli et Zahlaoui en ont été les témoins, en ont fait des rapports, et il y a eu donc plusieurs guérisons de cancer, je cite, une embolie cérébrale, un cas de cécité temporaire, des cas d'articulations bloquées et soudées qui ont été guéris. Il y a même un cas où la personne a retrouvé sa mobilité complète ou presque complète alors que l'articulation reste soudée sur les radiographies.
Ah.
Donc fait tout à fait inexplicable scientifiquement, médicalement.
Personnellement, j'ai reçu deux témoignages de conversion tout à fait immédiates et extraordinaires, justement un petit peu à la Saint-Paul. Je vais vous en raconter un de ces témoignages. C'est un homme qui était totalement incroyant, agnostique, même je dirais très distant, par rapport à la religion que pratiquait sa jeune épouse. Et cette épouse s'était rendue à Damas avec ses parents. Et lui-même n'était pas venu dans le voyage. Et à son retour, elle avait rapporté un coton imbibé de cette huile de l'icône. Il faut dire que depuis des années, avec sa famille, elle priait pour la conversion de cet homme, de son mari. En rentrant de Damas, elle a donné ce coton imbibé d'huile à son mari, qui instinctivement l'a porté à son nez pour en respirer une éventuelle odeur, une éventuelle senteur. Et puis il a reposé le coton et n'a rien dit. Seulement le lendemain matin, c'était dimanche, et il demande à aller à la messe avec sa femme. Et pendant toute la messe, il a prié. Sa femme était complètement époustouflée. Il a prié comme un ange. C'est extraordinaire. Recueilli. À la fin de la messe, sa femme lui a dit, tu sais, c'était bien que tu viennes à la messe avec nous. C'était vraiment... Et là, il a raconté. Il a dit, tu sais, hier, quand tu m'as donné le coton, j'ai respiré l'odeur du coton. Et à ce moment-là, j'ai vu une grande lumière. J'ai connu Dieu. J'ai compris que non seulement Dieu existait, mais qu'il était un Dieu d'amour. Et je crois, je suis devenu croyant. Et ça avait été pour lui une illumination, mais du type de Saint Paul, cette grande lumière dont il s'était senti complètement baigné, envahi, et la connaissance de Dieu. Il n'avait pas entendu de paroles comme Saint Paul, mais il connaissait Dieu au fond de son cœur, et depuis c'est un excellent chrétien qui prie avec une onction très particulière. Et j'ai reçu aussi un deuxième témoignage qui corrobore tout à fait celui-là.
Extraordinaire.
Oui, oui, c'est fabuleux. Ouais.
Et vous savez que les reproductions d'icônes qui sont distribuées par milliers de par le monde entier suintent parfois l'huile, exsudent de l'huile dans certains foyers.
Oui, c'est pour ça que je vous ai demandé de m'en donner une tout à l'heure. Oui.
Ah, voilà. Et on en connaît ailleurs en Syrie, à Alep notamment. Au Liban, en Jordanie, en Israël, au Venezuela, en Irak, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Arabie Saoudite, et jusqu'en France.
Jusqu'en France.
Et parmi certains de ces foyers, eh bien, les maisons deviennent des maisons de prière.
Ah oui, oui. Oui, c'est un très très beau
donc,
fruit.
Donc ce sont aussi les fruits spirituels de Soufanie.
Des oasis de prière.
Des oasis de prière. Oui. Et à l'échelon universel.
Oui. D'ailleurs, il est à signaler aussi que ce ne sont pas seulement les reproductions de l'icône de la Vierge de Soufanié qui se promènent dans le monde entier, qui avec sur dans les lieux de prière, mais Myrna elle-même, à ma connaissance, a l'air d'accepter des invitations à l'étranger, puisque récemment elle s'est rendue en Belgique, au mois d'août, le 15 août, je crois, et que là, il s'est passé quelque chose. Pouvez-vous nous préciser?
Oui. Du reste, elle est déjà allée aux États-Unis aussi.
Ah oui, ah oui.
Alors en Belgique, ça s'est passé au mois d'août, sur l'invitation d'un prêtre belge. Et effectivement, pour le 15 août, à la fin de la messe, je crois, elle est tombée en extase avec une effusion d'huile très abondante. Et elle a vu la Sainte Vierge Marie qui lui a parlé et qui lui a donné un message concernant la paix en Orient, qu'il fallait beaucoup prier pour la paix. Et en précisant que nous étions tous frères. Toujours cet appel à l'unité. À l'unité des chrétiens, mais à l'unité bien plus universelle au-delà des chrétiens, c'est un appel à la vérité.
Oui, ça rappelle aussi le message de Medjugorje, aimez vos frères orthodoxes, aimez vos frères, donc la Vierge s'adresse à des catholiques, aimez vos frères musulmans, elle n'a pas eu besoin d'ajouter aimez vos frères juifs, puisque elle-même est juive, et d'ailleurs dans certains cas, elle parle en hébreu, elle prie en hébreu, la Vierge Marie à Medjugorje, c'est à signaler.
Certainement, oui. Oui, il y a vraiment des correspondances très fortes et l'appel à l'unité se fait par le cœur, c'est par l'amour que ça se fait. L'œcuménisme véritable, c'est un œcuménisme qui est demandé à chacun de nous d'être ouvert par notre cœur à nos frères. C'est pas un œcuménisme officiel qui doit être signé. Bon, bien sûr, les concordats, on en a parlé tout à l'heure, c'est remarquable. Mais c'est remarquable dans la mesure où le patriarche Zakaïwas est un homme de cœur. Et nous le savons, il est très ami avec le père Zarfaoui. C'est un homme de cœur. Donc, bien évidemment, le pape Jean-Paul II aura plus de facilité avec des hommes de cœur. Ça se passe par le cœur. Et c'est à chacun de nous de faire l'unité maintenant. Et comme le dit d'ailleurs un des derniers messages de la Vierge Marie, c'était en novembre 89. Mes enfants, Jésus a dit à Pierre, tu es la pierre et sur elle je bâtirai mon église. Et moi, je dis aujourd'hui, vous êtes le cœur dans lequel Jésus bâtira son unicité. Il n'y a pas besoin de beaucoup épiloguer, c'est très clair. Et à Pâques 90, lorsque nous étions sur place, lors du samedi saint où Myrna a eu cette extase, précédée toujours d'effusion d'huile, elle a reçu un message du Christ, mais elle n'a pas vu le Christ. Elle a vu une grande lumière blanche, mais elle n'a pas vu sa silhouette cette fois-ci. Elle a dit que elle avait ressenti le message comme étant regrettable et elle a cru entendre une voix, la voix du Christ, comme un peu désabusée. Le Christ avait dit la chose suivante, mes enfants, vous, vous apprendrez aux générations le mot d'unité, d'amour et de paix. Je suis avec vous. Je précise qu'il reprend les termes de la Vierge Marie lors du message de mars 83, 7 ans après. Il a rajouté pour Myrna, mais toi, ma fille, tu n'entendras plus ma voix qu'une fois la fête unifiée, la fête de Pâques sous-entendue.
C'est-à-dire quand, à nouveau, la fête de Pâques serait commune aux orthodoxes et aux catholiques.
Voilà.
Et il y avait de la tristesse.
Et il y avait de la tristesse parce que...
De part et d'autre.
De part et d'autre, en disant, mais quand est-ce que ça va aboutir, cette unité? Mais ça se fait par l'amour, ça se fait par le cœur. La Vierge Marie a dit, vous êtes le cœur dans lequel Jésus bâtira son unicité. C'est pas intellectuel, ça vient du cœur. C'est la prière du cœur que
quand
nous retrouvons aussi à Medjugorje.
Priez avec le cœur, jeûnez avec le cœur, faites toutes choses avec le cœur, avec amour. Avec l'amour, vous pourrez rendre possible des choses qui vous sont impossibles.
Et d'ailleurs, il est à noter que tout cela se passe dans une famille. Il semble bien que Dieu appelle des saintes familles, des familles consacrées.
Tout à fait.
La Vierge Marie avait dit d'ailleurs à Myrna, « Je ne suis pas venue séparée, ta vie conjugale restera comme elle est. » Et Myrna est mère de deux enfants maintenant.
Oui.
Donc c'est important parce que c'est le sens vraiment de la famille que nous perdons peut-être aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc, Dieu veut redonner vraiment l'importance de la famille consacrée, de la sainteté des familles, de la sainteté du mariage. Il s'agit d'un véritable sacrement et de transmettre ce message d'unité des églises d'Orient, d'Occident, catholiques, orthodoxes, et même au-delà de l'unité des chrétiens et des croyants du monde entier à partir d'une famille. Mais ça, c'est très beau, c'est magnifique.
C'est bien dans la grâce de notre temps où le Seigneur appelle tant de familles à se consacrer. Regardez dans les communautés nouvelles, ne serait-ce qu'en France, les familles retrouvent ce sens et les familles savent aussi que c'est bien souvent une question de survie de la famille.
Certainement.
Merci, docteur Laurent, pour votre beau témoignage.
Merci à vous de m'avoir écouté. Et en union de prière avec Notre-Dame de Soufani.
Mes enfants, souvenez-vous de Dieu. Dieu est avec nous. Faites le bien à ceux qui font le mal et ne faites de tort à personne. Je demande l'amour. Ceux qui distribuent leur argent aux pauvres et aux églises sans qu'ils aient l'amour, ceux-là ne sont rien. Je visiterai davantage les foyers, car ceux qui vont à l'église n'y vont pas toujours pour prier. Donnez, ne privez personne. Donnez à tous ceux qui demandent du secours. Souvenez-vous de moi dans votre joie. Annoncez mon fils l'Emmanuel. Qui l'annonce est sauvé, et qui ne l'annonce pas, sa foi est vaine. Aimez-vous les uns les autres.
Pardon est la meilleure des choses. Celui qui se prétend pur et charitable devant les hommes est impur devant Dieu. Je vous fais une demande,
une phrase que vous graverez dans votre mémoire et que vous répéterez toujours. Dieu me sauve, Jésus m'éclaire, le Saint-Esprit est ma vie, c'est pourquoi je ne crains rien.
Et lors d'une veille de l'Assomption, mes enfants, joyeuse fête, voici ma fête, c'est quand je vous vois tous réunis. Votre prière, c'est ma fête, votre foi, c'est ma fête, l'union de vos cœurs, c'est ma fête.